Aborder les sciences autrement à la découverte des médiations. Une série estivale des bénévoles du Labo des Savoirs, réalisée par Elia Techer et Charlotte Beaune, avec la participation de Cécile, Jérémy, Célie et Julie. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre site internet. Épisode 1, introduction, définition, médiation.
Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui dans un tout nouvel épisode du Labo des Savoirs. Mais ce dernier est un peu particulier, puisqu'il s'agit du premier d'un tout nouvel hors-série de l'été. Et si, pendant les vacances du Labo des Savoirs, on voyait la science autrement? Pour cette occasion, nous avons eu envie de vous parler de toutes ces manières de voir la science et la recherche sous un œil nouveau. Et oui, parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire sortir la science des laboratoires. Au cours de cette édition estivale, on parlera d'art, de jeux, d'illustration, mais aussi d'animation. Alors, préparez-vous au départ, car cet été, on se lance à la découverte des médiations scientifiques. Mais tout d'abord, il convient de distinguer quelques termes. Et oui, la réflexion qu'on s'est faite avec Charlotte, c'est qu'il existe tout plein de métiers qui regroupent la même idée. Parler de la science et même parler des sciences. On écoute tout de suite Charlotte qui va nous expliquer tout ça.
Entre la médiation scientifique, la vulgarisation, la communication ou le journalisme scientifique, pas facile de savoir exactement les différences entre chacun de ces termes. Dans l'idée, la vulgarisation scientifique est abordée de façon descendante, comme un professeur sur une estrade qui expliquerait à ses étudiantes et étudiants des concepts scientifiques. Elle fait pourtant partie de la mission d'un chercheur de rendre compte de ses travaux. Mais le terme désigne aussi le travail de celles et ceux, autodidactes, qui partagent à un public non initié. La médiation scientifique, quant à elle, s'en différencie en mettant le public et le dialogue au centre de ses intérêts. Car étymologiquement, c'est le fait de servir d'intermédiaire, de médiateur, de s'entremettre entre deux personnes, deux parties, pour les mettre d'accord. Comme cela est rappelé sur le site du laboratoire CNRS Modèles et Simulations pour l'architecture et le patrimoine, la médiation scientifique vise à renforcer le lien entre science et société et permet d'éclairer le débat public. La communication scientifique, quant à elle, définit l'ensemble de l'activité de diffusion des résultats de la recherche scientifique, que ce soit vers d'autres de ses membres, vers les pairs, ou alors vers un plus large public.
Ok, c'est déjà beaucoup plus clair. Mais qui s'occupe de tout ça alors ?
Les acteurs et les actrices de la communication scientifique et technique sont alors très diverses. Chercheurs et chercheuses, ingénieurs, techniciens et techniciennes, chargés de communication, journalistes et vidéastes, qui évoluent au sein des laboratoires de recherche, mais aussi des musées et des muséums, des CCSTI, les centres de culture scientifique, technique et industrielle, ou encore au sein d'associations ou d'organismes publics. L'écosystème est donc très varié et complémentaire. Et les médias utilisés pour mettre la science au centre du dialogue le sont tout autant. Conférences, articles, émissions de radio, télévision, expositions, magazines, mais aussi vidéos, représentations théâtrales, visites de laboratoires ou encore des ressources scientifiques en open source. La liste est évidemment non exhaustive.
Et c'est quoi la place du journalisme scientifique dans tout ça ?
Selon le site de l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information, le journalisme a pour but d'informer, donc de parler des nouveaux résultats scientifiques ou des sciences en rapport avec l'actualité. Donc même s'il existe des liens entre les deux, ce n'est pas tout à fait le même objectif que la médiation.
Merci Charlotte pour cette chronique qui en aura éclairé plus d'un. Maintenant que l'on sait de quoi on parle, passons tout de suite à un petit point historique. Car, à ses débuts, la science a été séparée du grand public. En effet, seuls les scientifiques et le clergé y avaient accès. Il fallait savoir lire le latin, ce qui tenait éloigné la majorité du peuple. Il faudra alors attendre la Renaissance pour que les résultats scientifiques soient publiés dans la langue vernaculaire de leur pays. Dès le XVIIe siècle, on voit alors apparaître la popularisation des cabinets de curiosité, des lieux qui mélangent à la fois « vraie science » entre guillemets et « faux artefacts » destinés à émerveiller les visiteurs. Avec l'avènement du siècle des Lumières, la bourgeoisie prend l'initiative de création de cabinets, autrefois exclusivité de la noblesse. À nouveau, peu de personnes du peuple y auront accès. C'est le cas également des écrits des Lumières et notamment des encyclopédies qui ont l'ambition de rassembler le savoir scientifique et de le diffuser, mais qui au final ne s'adressent qu'à un public restreint. Il faudra donc attendre la Révolution française pour que la science soit mise au service du peuple et ait l'ambition d'éduquer tous les citoyens. Au XIXe siècle, un essor des muséums se développe. Bien qu'encore réservé à un public initié, ils contiennent des ouvrages et des journaux périodiques scientifiques en lien avec l'alphabétisation de la population. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, les musées s'ouvrent pour les scolaires ou les étudiants et la relation avec la science est encore faite de façon descendante. Il faudra alors attendre les années 1980 pour voir l'émergence du terme médiation scientifique à travers la création de centres comme la Cité des sciences et de l'industrie, les premiers CCSTI, Centre de culture scientifique, technique et industrielle, mais aussi la reconnaissance professionnelle du statut de médiateur scientifique. Et donc, à l'occasion de cet épisode introductif, je suis actuellement avec Raphaël Batz, sociologue et chercheuse en sciences de l'information, qui est également co-responsable de l'URFISTE de Bordeaux. L'URFISTE, c'est l'unité régionale de formation à l'information scientifique et technique. Nous allons parler démocratie éclairée, sensibilité de la science et de l'importance des sciences participatives comme outil de médiation. Raphaël, vous avez soutenu votre thèse en 2019 intitulée « De la participation à la mobilisation collective, la bibliothèque à la recherche de sa vocation démocratique ». Pouvez-vous nous parler de ce qui vous a dirigé vers ce sujet ainsi que de ses enjeux ?
Ce qui m'a amené à travailler sur les pratiques participatives en bibliothèque, c'est déjà que j'étais conservatrice de bibliothèque, je travaillais en bibliothèque. Alors, je n'ai pas travaillé très longtemps parce que j'ai rejoint après l'ENSIB, qui est l'École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques, où j'avais la possibilité de faire de la recherche. Et rapidement, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte d'ironie, on va dire, entre un affichage de plus en plus important d'une appétence de la bibliothèque à conduire des pratiques participatives avec les usagers, et dans le même temps dans une institution qui est finalement assez peu participante en interne. Et l'étonnement est venu de là, je me suis dit, ah bah tiens, comment une institution qui est quand même très hiérarchisée en interne arrive à faire de la place à des personnes qui ne sont pas expertes de ce métier. C'est le métier de bibliothécaire, c'est un métier qui a une partie assez technique, hein, qui a aussi tout un ensemble de valeurs, de codes. C'est un corps de métier qui s'interroge beaucoup sur ses pratiques, qui est très dynamique à ce niveau-là. Il y a une discipline qui s'appelle Library Science, etc. Et donc, je me suis dit, mais comment ils font de la place à des gens qui n'ont pas cette expertise, cette déontologie connue, assumée, etc., cette technicité. Et donc, l'étonnement est venu de là, avec aussi le sentiment que c'était une question assez importante parce qu'elle a des enjeux non pas seulement professionnels, mais bien de voir comment la bibliothèque à la fois assume son rôle politique, parce qu'il me semblait que la pratique participative, ça nous ramène directement à la question de quelle place pour les citoyens dans la construction des institutions, donc c'est une question véritablement de démocratie. Donc il y avait ce double aspect politique qui est celui de quelle place l'institution laisse aux personnes et comment l'institution trouve sa place dans un renouvellement des formes démocratiques, c'est-à-dire qu'on espérait, en tout cas à ce moment-là, de plus en plus ouverte sur la parole des citoyens et pas seulement des paroles expertes. Donc c'est ça qui m'a amené à travailler sur ces questions-là, à la fois un regard métier et un regard sur les questions d'incapacitation et de rôle politique des institutions de savoir.
À travers le projet ECODOC, vous proposez des ateliers de sciences dites slammées. Quelle est l'intention, le but derrière ce format de recherche-création ?
Là, on fait dialoguer ensemble. Donc, on retrouve cette idée dont je parlais dès le début de dialogue entre les savoirs experts et les savoirs profanes. Et donc, on est vraiment là en train de se donner la possibilité, par les approches sensibles et par quelque chose comme le slam, d'être beaucoup plus en réception de ça, quoi. Et donc, on a des projets comme ça maintenant avec Bastien Castagnérol. On travaille sur les arbres. Et donc, maintenant, c'est lui qui m'embarque dans ces projets d'écologie forestière. Et on essaye de voir quelles approches sensibles on va pouvoir mobiliser pour collecter des données qui vont vraiment informer le projet. Donc, il y a une vraie interaction, au sens pragmatiste, quoi. Il y a une vraie interaction. Tout le monde en sort changé. Le changement, pour les personnes, si on parle de résultats de l'atelier, donc moi j'ai fait des entretiens avec les gens après, etc. Et donc ce qui en ressort, c'est d'abord, dans l'instant, c'est une très grande fierté des personnes. C'est-à-dire fierté d'avoir réussi à se lamer, mais fierté de s'être promené aussi dans une science qui est complexe. Enfin, je veux dire, slammer un fichier Excel, c'est pas si évident. Slammer à partir de mots qu'on connaît pas. Les gens, ils connaissent pas la notion de phénologie. Moi non plus, d'ailleurs. Enfin, je suis pas en écologie, c'est pas mes disciplines. Et donc, il y a cette fierté, et puis aussi un sentiment très fort, hein, qui apparaît même pendant l'atelier, d'avoir construit un groupe tous ensemble. Les personnes qui, finalement, ont mis un peu leurs émotions à disposition, quand ils écrivent et puis quand ils performent tous ensemble, c'est très émouvant, hein. Il y a des gens qui pleurent et tout ça, et on rigole beaucoup surtout parce que le slam c'est très drôle, parce qu'on fait des jeux de mots, etc. Le slam c'est aussi un truc où on applaudit les gens tout le temps, voilà, avant de performer, après avoir performé, il y a une sorte d'émulation comme ça, donc il y a quelque chose de très fort qui se passe. En général, à la fin des ateliers, les gens ne veulent pas partir. Voilà. C'est même nous à la fin que sommes en train de dire « Bon, ben, va peut-être falloir rentrer chez soi, là. » Il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe comme ça. La deuxième chose, c'est que ben, les gens nous disent qu'ils ont... oui, ils ont appris des mots. Enfin, je sais pas, ils ne sont pas devenus biologistes, quoi. Hein. C'est pas l'objet. Nous, en tout cas, on ne cherche pas à faire de la médiation scientifique qui vise une compréhension de la science. Enfin, pas du tout. En revanche, les gens nous disent « Maintenant, je vois des arbres partout. » Ou alors, ils me disent « Ben, en fait, là, du coup, je me dis « Il faudrait qu'on demande à la municipalité d'arroser ceci ou cela. » Voilà. Donc, je prends deux exemples, ça peut paraître anecdotique, mais c'est quelque chose qu'on voit vraiment apparaître. Et nous, on s'appuie beaucoup sur un truc qui s'appelle la théorie des voyelles de Burns. Il y a un texte qu'il a écrit en 2003, et c'est un modèle qui dit que la médiation scientifique, elle ne vise pas que la compréhension. Elle peut viser aussi le A, comme awareness, c'est-à-dire que les gens, d'un coup, ils vont faire attention autrement aux choses. Par exemple, il y a quelqu'un qui me dit « Mais en fait, maintenant, je me dis que mes plantes, je ne prête pas attention à elles, je devrais les nommer, en fait, je devrais leur donner un nom. » Ça, c'est des nouveaux rapports à la nature qui se mettent en place. C'est aussi, le « i », c'est « enjoyment », c'est le fait de s'être amusé. En fait, il y a plein de gens pour qui la science, c'est compliqué. Des gens qui disent « la science et moi, c'est très compliqué ». Ou « la science et moi, c'est... » parce qu'on leur demande avant voilà, le rapport à la science. « La science et moi, c'est... » je déteste. À l'école, j'aime pas du tout. Voilà, les enfants, ils disent des trucs comme ça. Et puis, en fait, ils se sont amusés avec la science. Donc, en fait, pour nous, déjà, c'est des bons points de leur rapport à la science. Le « I », le « i », c'est « interest », c'est est-ce qu'ils ont un nouvel intérêt pour la question, et notamment sur les questions de forêt, etc. Les gens me disent, moi je fais des entretiens 3 à 6 mois après, qu'ils vont lire des articles, qu'ils sont allés chercher des infos là-dessus, etc. C'est-à-dire qu'ils vont aller plus loin que l'expérience de médiation scientifique qu'on a faite. Le « o », c'est « opinion », c'est l'idée justement de se dire, en fait, maintenant j'ai compris qu'il faut que je fasse ça, ou que j'ai décidé de faire ça. Alors ils font ce qu'ils veulent, puisque nous, dans la science, on leur dit pas « fais ci, fais ça », mais en tout cas, ils le transforment en une action, puisque nous, on s'intéresse à l'adaptation, c'est un peu ce qui nous intéresse. Et le « u », le petit dernier « u », c'est « understanding », c'est la compréhension. Les gens, ils comprennent pas, et en fait, la plupart, ils nous disent « j'ai rien compris, mais j'ai adoré », et en revanche, ce qu'ils ont compris, et qu'ils finissent par nous dire, c'est qu'ils ont compris que, un, il y avait des scientifiques qui travaillaient là-dessus. Et ils nous disent qu'ils sont très soulagés de l'apprendre, parce qu'ils pensaient que tout le monde s'en fichait. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'ils ont découvert que la science passait par des chemins complètement inattendus pour eux. Alors le collègue qui met des chenilles en pâte à modeler sur les arbres, alors ça les fait... voilà. Mais pas seulement, tous ces capteurs, ils ignorent en fait ce genre de choses, et ça les fascine. Et du coup, ce qu'il en ressort aussi, c'est une sorte de nouveau collectif avec les scientifiques, qui disent... On s'intéresse aux mêmes questions. Les gens le disent. Ah, en fait, on a le même problème. Je pensais pas qu'on avait le même problème avec les scientifiques. Je pensais que les scientifiques, ils vivaient leur vie avec leurs trucs un peu foufou. Mais en fait, non, on a le même problème. On s'intéresse aux mêmes choses. Ça, c'est, il y en a plusieurs qui parlent de héros sans cap, etc. En parlant... Donc, c'est très, très bon pour nous, les scientifiques, quand on fait ces ateliers, parce qu'on en ressort en disant, c'est bon, les gens nous aiment. Mais il se passe vraiment quelque chose de fort. Donc, il y a une transformation des chercheurs. Il y a une transformation des participants. Il y a eu une transformation de l'association de slam. L'association slam, au début, ils sont venus en disant, pourquoi pas, c'est fun, c'est rigolo, on va faire ça, mais enfin, voilà. En fait, ça a transformé. Maintenant, dans l'association, il y a un pôle science. Ils font de la médiation scientifique. Ils ont dit, mais en fait, on est complètement utile là aussi, quoi. Donc, ils ont développé un pôle médiation scientifique. Et puis, ça a ouvert les ateliers. On a commencé en 2023. Le pôle de médiation scientifique dans l'asso s'est créé en janvier 2025. Je sais pas, ils en ont déjà fait une dizaine, quoi. Et puis, voilà, ils sont repérés là-dessus maintenant. Donc c'est vraiment très important, et ça va en plus avec toutes les stratégies nationales qui sortent sur la manipulation de l'information, la lutte contre la désinformation scientifique, donc ils ont trouvé un mode de participation à ça, par l'art, qui est hyper fort, quoi. Voilà. Et puis je ne l'ai pas dit, mais dans les ateliers qu'on a fait, les plus jeunes avaient 10 ans, la plus âgée avait 83 ans, hein. Elle était en EHPAD, voilà. Et on a fait un atelier avec une classe Ulysse, donc les classes avec des enfants qui sont en situation de handicap. Donc il y a plein de formes et de... Enfin voilà, c'était assez génial de voir Suzanne, 83 ans, slammer. Voilà, c'est des souvenirs qu'on aura pour longtemps, quoi. Et puis la dernière transformation, bah, faut que je le dise aussi, mais c'est sur moi, en tant que chercheuse. J'avais l'intuition que faire du slam avec les personnes me donnerait accès à des données scientifiques sensibles, intéressantes pour mes recherches. Ça a été le cas, ça s'est confirmé. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que moi-même, je me mettrais à slammer. Mais pas une seconde, j'ai pensé ça. Pour moi, j'allais faire des observations participantes, l'analyse des documents, faire les entretiens, faire mon job de chercheuse. Et en fait, enfin, je pensais pas faire des observations participantes, je pensais faire des observations. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, quoi. J'ai participé, et en fait, non seulement j'ai participé, mais tous les ateliers de l'enquête, qui sont donc les 11 premiers ateliers, enfin les 6 premiers ateliers plutôt, j'ai participé, c'est-à-dire que j'ai écrit à chaque fois. Et donc je me suis vraiment mis avec eux en tant que chercheuse en disant, bah moi je vis le truc en même temps que vous, et à chaque fois j'ai pris des dossiers différents, voilà, donc j'ai slamé sur à peu près tout ce qui était possible autour des arbres. Déjà ça c'était une transformation, mais bon, soit. Mais ce que ça a changé surtout, c'est que c'est devenu un outil pour moi pour donner accès à mes recherches, mais pas vis-à-vis des citoyens, mais aussi vis-à-vis de mes pairs, des autres chercheurs. Et donc, quelques mois après, j'avais candidaté pour une intervention, enfin pour une communication au congrès à l'Association internationale des sociologues de langue française. Très académique, il n'y a que des chercheurs. Voilà, j'arrive avec ma présentation sur les ateliers de sciences slamées, comment c'est... ce que ça mobilise en termes de collectif, vraiment une approche scientifique, tout ça, et en préparant, d'un coup, je me suis dit, mais j'avais du slam qui me venait, quoi. Et j'ai fini ma conférence en slamant, voilà. Alors, autant dire que je ne faisais pas ça avant, et voilà. Et depuis, je pense, je l'ai fait au moins 5-6 fois, quoi. C'est devenu un truc... Et là, dernièrement, j'ai rendu un article qui finit par un slam. Donc ça, c'est la première fois. Pareil, un article dans une revue académique très sérieuse. Je sais pas, pour l'instant, j'ai eu des retours, ils ont accepté l'article, ils ont pas biffé le slam, donc ils l'ont accepté. Donc ça montre aussi des transformations, cette question des approches sensibles, ça montre aussi des transformations dans la manière dont on produit la science, du point de vue des protocoles, mais dans la manière dont on l'écrit aussi. Et aujourd'hui, quand je témoigne de mon projet de recherche, j'ai des données, j'ai plein de trucs comme ça, mais j'ai aussi des slams. Et donc, ça en fait partie, quoi. Et là, j'étais au congrès des sciences participatives, de European Citizen Science Association, en mars, là, en Finlande. J'ai slamé en anglais, cette fois, c'était la première fois. Parce que maintenant, c'est vraiment un outil pour moi de... C'est ce que j'appelle la poétisation de la science. C'est à la fois un outil qui me permet de redonner un peu corps et d'incarner mes recherches, de leur donner un sens, vraiment, en les situant, voilà, il y a de moi là-dedans, quoi. Voilà, c'est très rigoureux, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Mais ça ne vient pas de nulle part, quoi. Voilà, donc j'ai toujours fait de la recherche située, j'explique d'où je viens, d'où je pars, etc. Mais il y a vraiment une partie de moi qui est aussi émotionnelle, quoi, qui me paraît importante. Et c'est surtout quand je mobilise celle-ci, ça m'aide aussi à remettre certains concepts qui me paraissent importants et de faire le lien. Et pour les gens, c'est pas toujours évident que quand je parle de parenté, je parle d'Araoué, mais on s'en fiche un peu parce que dans mon texte, parenté, ça va rimer avec égalité, etc., etc. Et en fait, ça fait que le message passe aussi comme ça. Et pour moi, oui, c'est vraiment important. Et du coup, ça a eu plein d'impact. C'est que je commence à changer ma manière d'écrire et de partager au pair. Et puis aussi, dans le projet, on a fait le livrable dont on parlait, Lecture sensible. Mais on a aussi publié un recueil de slams, avec les slams des personnes, quoi. Et donc, on a aussi mis, parce que ce recueil, maintenant, il est à la bibliothèque universitaire, il est à la bibliothèque municipale, des bibliothèques des villes partenaires, donc dans deux bibliothèques municipales. En fait, ce recueil, c'est les gens qui rentrent dans les lieux de diffusion des savoirs. Donc, on a un peu bouclé, et moi, j'ai développé un concept dans mes recherches qui est celui d'hospitalité documentaire, et qui est celui de dire, bah voilà, dans tous les documents qu'on propose, notamment pour rendre compte de la recherche, ils sont où les gens ? Voilà. Ils sont où les gens qui participent, notamment quand on fait des sciences participatives ? Ils sont où ? Et bah voilà, en fait, ça répond, nous, maintenant, les gens qui ont participé, qui ont produit ces textes de slam, qui nous ont été hyper utiles pour faire nos analyses, etc., parce que là, je parle que d'un petit bout, mais ça va beaucoup plus loin, ces gens, ils sont à la bibliothèque. On peut les trouver à la bibliothèque. Et pour nous, là, l'université devient véritablement hospitalière. Elle laisse entendre aussi comment la science rencontre la société, pas juste en leur disant « Regardez, c'est ça la science, il faut que vous appreniez ce que c'est la science, essayez de comprendre la science, etc. » Mais ça dit « La science, c'est le chemin que nous, on a choisi pour répondre à cette question. Et le chemin que vous, vous avez, il nous intéresse aussi. Parce qu'en fait, ça dessine un autre réel. Et on a besoin, pour que notre science aussi puisse trouver application, que ce soit dans les politiques publiques, que ce soit dans des choix individuels, que ce soit tout simplement dans le financement aussi qu'on pourrait avoir par la suite, eh bien, c'est hyper important qu'on ne fasse pas de la science, juste pour soi, quoi. Voilà.
Comment souhaiteriez-vous voir évoluer le futur de la recherche et ses liens avec la médiation scientifique ?
Alors, c'est une question super intéressante. Je ne sais pas si je veux faire évoluer la recherche en soi, parce que la recherche, pour moi, bon, la question de la méthode scientifique, je ne tiens pas à ce qu'elle évolue, hein, j'y tiens beaucoup, en plus, je suis un peu pénible avec ça, j'y tiens beaucoup, et en plus, parce que je suis en sciences sociales et qu'on a vite fait de nous dire qu'on ne fait que de la sociologie de comptoir, donc je tiens beaucoup à cette rigueur, etc. En revanche, je pense que... Et c'est là où la médiation scientifique, où ça se croise, c'est que je pense qu'on est en train de changer aussi un peu les modes de production de la science. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit in fine ? Donc on produira toujours des articles moi-même, je produis des articles académiques, une partie en anglais, c'est complètement illisible, incompréhensible, sauf par les trois personnes que ça intéresse. Je continuerai toujours à le faire, parce qu'en plus j'aime bien faire ça, voilà. Mais je pense qu'on s'intéresse de plus en plus à produire d'autres formes. Alors nous, c'est le slam, mais d'autres personnes de mon entourage font du théâtre, font faire d'autres formes, de la danse, etc. Enfin voilà, il y a plein de façons de faire. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on est de plus en plus dans aussi l'intégration de ces objets qu'on pensait être de la médiation scientifique au départ, enfin dans ces outils de médiation scientifique, comme des vrais outils de collecte d'informations. C'est-à-dire que ça fait partie de notre processus, donc tout ce qui va être recherche-création, des choses comme ça. Ce qui me paraît aussi intéressant là, dans le rapport recherche et médiation, et les nouvelles formes, c'est que, donc déjà ces nouvelles formes, si je me mets du point de vue des médiateurs, je pense qu'il est important pour eux de se rendre compte qu'en fait on produit ces choses-là. Voilà. Et pour l'heure, je ne sais pas dans quelle mesure les institutions de médiation scientifique se saisissent beaucoup de, par exemple, quand nous on fait du slam, ou, mes écrits en slam, ou les travaux de mes collègues en théâtre, voilà, comment en fait ce lien se fait, est-ce qu'ils identifient ça comme en fait un résultat de recherche, alors que c'est le cas, hein, c'est vraiment des résultats de recherche, mais écrits sous forme scientifique, non académique. Voilà, c'est alternatif, mais ça reste quand même des résultats. Donc déjà, je pense qu'il y a un enjeu fort à ce qu'on partage ça avec les médiateurs pour qu'ils puissent inventer des formes de médiation qui vont se saisir de ce qu'on produit. L'autre chose, c'est que la recherche s'intéresse beaucoup à la science ouverte. Alors la science ouverte, c'est la mise à disposition de ce qu'on produit, donc ce que je disais, les données, etc. Et puis aussi les questions d'ouverture aux autres intelligibilités, donc ça va être les sciences participatives, mais ça va être aussi la médiation scientifique, etc. Et il me semble que ces deux points-là ne coïncident pas totalement. C'est pour ça que nous, on a fait du slam de données scientifiques. C'est-à-dire que moi, je suis dans même mon unité est dédiée à la science ouverte. D'ailleurs je le fais pas encore bien, mais mes collègues mettent leurs données en ligne, super, et donc j'ai une collègue à Lyon, Amélie Dallos, qui travaille sur la découvrabilité des données, donc il y a déjà tout un enjeu de médiation scientifique sur comment on aide les gens à trouver, comment on permet que les gens vont trouver des données, par quel jeu, par quel biais ça va se faire, parce que bon, mettre des données, c'est bien, mais enfin, les citoyens, déjà, il faudrait qu'ils trouvent les entrepôts. Une fois qu'ils ont trouvé les entrepôts, il faut qu'ils comprennent de quoi ça retourne, etc. En fait, nous, c'est un peu à cette question qu'on a cherché à répondre avec Ecodoc, c'est dire, et si on leur donne directement, il se passe quoi, en fait ? Est-ce qu'on peut faire confiance aux gens qui vont être capables de retraduire, de reformuler tout ça ? Et donc, je pense que la médiation, elle doit s'intéresser aussi à ça. Pas seulement à déjà faire ce travail de traduction, mais à créer les conditions par lesquelles les gens vont traduire eux-mêmes. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans ce nouveau lien entre recherche et médiation, c'est de dire, il faudra toujours de la vulgarisation scientifique, il en faut, c'est hyper important, puis c'est chouette en plus, voilà, donc c'est chouette. Les questions de culture scientifique, comme on le fait, à amener les enfants à manipuler les outils, à un peu voir comment ça fonctionne la science, il en faudra toujours, c'est hyper important. Mais ce qu'on a moins aujourd'hui, c'est vraiment cette possibilité de dire aux gens, tiens, prends-la la science telle qu'elle est, et dis-moi ce que toi, ça t'évoque. Dis-moi comment toi tu le replaces dans ton contexte. Non, tu ne seras pas scientifique. Enfin, je veux dire, c'est bon, tout le monde n'est pas obligé d'être scientifique. D'abord, on ne le souhaite pas à tout le monde. On espère qu'il y a plein de gens chouettes qui vont devenir scientifiques. Mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de la place à l'université. Tout le monde ne devient pas chercheur. Et par contre, il y a besoin de la science comme une culture scientifique. Donc, Moi, ce qui m'intéresse, alors après j'ai fait sociologie, donc moi ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut penser, et je le fais avec les gens avec qui on travaille en médiation, comment on peut penser la culture scientifique avec les outils de la sociologie de la culture, c'est-à-dire comment on pense la culture, avec notamment les questions de réception. Ce que j'observe, c'est que, je sais pas, en théorie de la réception, par exemple, sociologie de la réception, ça part beaucoup du livre, par exemple, c'est l'idée de sortir de représentation que l'auteur, il écrit un livre, et que toi, t'as bien compris, en fait, le travail de l'auteur, si tu comprends bien pourquoi il a écrit ça, comment il a écrit ça, tu peux tout raconter, etc. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. On lit ce qu'on a envie du livre, parfois on le lit pas en entier, parfois on se rappelle qu'une partie, ce qui nous a peut-être bouleversé, d'ailleurs, ce qui relève de l'émotion. Parfois, on confond. On lit comme on lit d'où on est, on le lit un jour. On l'a tous dit, ça, dans notre vie. Ce livre, à un moment donné de ma vie, je l'ai lu, j'avais 18 ans. J'ai adoré parce qu'il correspondait à telle et telle question. Puis je l'ai relu à, je sais pas, 40 ans, et il m'évoque de nouvelles choses, je le lis complètement différemment. Bon, et ben la science, pour moi, ça doit être pareil. La culture scientifique, il n'y a pas de raison qu'en fait, on nous donne quelque chose qui serait de l'ordre du vrai. Tiens, regarde, ça, c'est la science. Alors qu'en fait, même une exploration du débourrement et de la sénescence des feuilles, on le lit à 10 ans, ça nous dit quelque chose. Bah, typiquement, le fait de perdre ses feuilles, etc., c'est la vieillesse. D'ailleurs, ça s'appelle sénescence, c'est pas pour rien. On ne lit pas cette question de la même manière à 10 ans et à 83 ans. C'est pas possible, en fait. Et moi, c'est ça que je trouve magnifique. Voilà. Et donc, j'ai vraiment envie de me ressaisir de la science et de la question de la culture scientifique par la sociologie de la culture. Donc, sur ce que ça crée, eh ben, ça crée d'amener la médiation scientifique à vraiment considérer qu'au fond, le récit de la science, ben, c'est un récit par des scientifiques qui eux-mêmes sont tous différents. Nous, on travaille avec 3 scientifiques. Il y en a un qui adore les sciences participatives, il y en a un qui adore les capteurs, il y en a un qui adore, etc. Donc, ils racontent leur projet, mais d'une manière, chacun, qui est hyper personnelle, finalement. Alors oui, ils ont l'impression qu'ils ont qu'ils racontent la science, quoi. Mais pas du tout. En fait, ils racontent bien la science vue par eux. Et nous, on dit que la médiation scientifique, c'est l'occasion de confronter ça avec d'autres récits de leur science. Voilà. Et donc, déjà, c'est là où moi, je trouve qu'il faut remettre de la question de la situation de la recherche dans la médiation scientifique et se redire, voilà, qu'est-ce qui est situé et dans la médiation, et dans la production de la recherche, et dans la médiation telle qu'elle se fait, et dans la réception par les personnes. Voilà. Donc il y a ces approches-là, et puisqu'on peut changer aussi, enfin changer, c'est pas changer, mais faire évoluer, en tout cas moi j'ai l'impression d'observer un renouvellement aussi de la médiation là-dessus, c'est les questions de l'appropriation. À partir du moment où on fait ce travail-là, comme je disais, de se dire que les personnes peuvent se réapproprier la science depuis là où elles sont, on rentre dans le sensible. Donc, comme je disais, voir où ça nous touche, etc. Et du coup, on va produire tout un ensemble de choses, les inviter à s'exprimer, etc. Et je pense que ça amène la médiation à travailler plus sur ce temps un peu d'écoute, finalement, en fait. D'écoute des citoyens, de se demander, mais comment mobiliser, alors je sais pas, moi, de la poésie ou autre, du dessin. Et comment on le fait, qu'est-ce qu'on en apporte après, qu'est-ce que ça apporte aux gens, qu'est-ce que voilà. Et s'intéresser du coup, je pense, enfin forcément, c'est peut-être pas très clair ce que je dis, mais le fait de s'intéresser à ça va forcément changer, je pense, par la suite, la manière dont on observe l'impact de la médiation scientifique. Parce que quand on fait des approches sensibles comme ça, le fait de savoir combien de personnes sont venues à l'atelier, ils étaient 15, ils étaient 8, ils étaient 350 à la fin. C'est important, ça, c'est les modes de fréquentation. Enfin, je vois quand on regarde tous les CCSTI, etc., pour l'instant, l'impact, ils le mesurent comme ça. C'est-à-dire combien de gens sont venus, combien il y a eu de fréquentation, etc. Mais si on se met à s'intéresser plus à ce que ça produit réellement et leur capacité à s'exprimer, on va plutôt essayer de mettre en place des analyses d'impact qui vont être beaucoup plus sensibles elles-mêmes. Voilà. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est à quoi vous faites attention maintenant ? Est-ce que vous vous êtes amusé ? Etc. C'est-à-dire un résultat de transformation des personnes, des effets, quoi. Voilà. Et donc, je pense que ça va aussi, petit à petit, bouger aussi sur ces lignes-là, de même qu'on va s'intéresser autrement à ce que produit la recherche. C'est pas simplement à savoir si combien d'articles scientifiques on a publiés, mais aussi est-ce qu'on a réussi à mettre en place des dialogues avec la société ? Et comment ça se passe ? Je pense que ça bouge à plein d'égards. Et puis, enfin, la dernière chose, c'est qu'on fait des sciences participatives. Alors, on n'est pas fou, enfin, je sais pas, c'est pas l'ensemble des chercheurs qui font des sciences participatives, ça n'aurait aucun sens, et on ne fait même pas tous nos projets de recherche en sciences participatives, mais on en fait un peu plus quand même. Je pense que sur ces projets-là, la médiation, elle ne vient pas se coller après au niveau des résultats, elle se fait tout au long du projet. C'est les sciences participatives en elles-mêmes produisent ce que la médiation cherche à faire, c'est-à-dire l'acquisition d'une culture, une acculturation à la science, compréhension d'un certain nombre de concepts, etc., et de connaissances stabilisées, mais aussi la participation au fait que la science se construit et continue de se construire, comme la démocratie, au passage, il n'y a jamais rien de figé. Et donc ça joue aussi sur l'incapacitation des personnes. Donc je pense qu'on va, enfin on le voit déjà, hein, il y a beaucoup de centres de médiation scientifique, soit l'école de la médiation, etc., qui s'intéressent à la question des sciences participatives. Et c'est pas pour rien, parce qu'en fait c'est pas la médiation qui vient se coller à la fin de la science, mais ça va se faire ensemble. Et je pense que c'est là où, pour clore la question du rapport recherche et médiation, c'est que je pense qu'on va de plus en plus sur une temporalité qui sera plus disjointe. Je pense que ça va être de plus en plus un temps qui se co-construit tout au temps de la production, de la co-construction du projet de recherche, de la définition de ce qu'on veut produire à la fin, etc., etc. Et donc, on aura toujours de la médiation après, ou de la médiation avant, peu importe, mais je pense qu'on va l'avoir de plus en plus qui se construit en parallèle. Et typiquement, ça devrait avoir un effet sur nos projets de recherche, c'est-à-dire que dans un projet de recherche, on devrait pouvoir embaucher des médiateurs scientifiques tout au long du projet, pas pour qu'ils produisent des articles sur Instagram, etc. C'est pas de la com', c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est bénéficier de cette expertise de médiation scientifique et en faire bénéficier nos projets de recherche tout au long du projet, quoi. Donc, c'est comme on fait de la recherche-création, on devrait faire de la recherche-médiation.
Et c'est déjà la fin de ce premier épisode estival sur le sujet des médiations scientifiques. J'espère qu'il vous aura donné envie d'en savoir plus, car nous nous retrouvons très prochainement pour un nouvel épisode qui parlera d'art et de science. Je remercie chaleureusement Charlotte qui a coécrit et réalisé cette émission, ainsi que Raphaël Batz pour sa participation. On me dit à l'oreillette qu'on aura l'occasion de l'écouter à nouveau pour une petite mise en pratique. Je vous dis à bientôt sur les ondes, c'était Elia Técher pour le Labo des Savoirs.